Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir à tous. Pour ou contre l'arbitrage vidéo dans le football, tel est le débat du jour sur Radio France Internationale. Ce mondial de football en Russie qui se déroule en ce moment est celui d'une petite révolution. Une révolution car pour la première fois dans l'histoire de ce sport planétaire, les arbitres pourront pendant cette Coupe du Monde 2018 faire appel à la vidéo pour prendre leurs décisions. Et finalement, ce simple outil d'aujourd'hui qui est l'image, le ralenti d'une action pour in fine arbitrer un match pose énormément de questions. Divise même au sein de la profession. Alors ce système d'assistance vidéo, est-ce pour autant la fin des injustices, la fin des tricheurs? Que faire des temps morts où l'arbitre consultera les vidéos? Le football sera-t-il toujours le même? Et puis derrière cette idée plutôt louable, peut-on voir le mal? Ou encore, n'est-ce pas aussi la fin des histoires légendaires du football comme le célèbre but de la main de Maradona? Nous étions en 86.
Maradona.
Oui, oui.
Maradona.
Oui.
Valdano.
Oui.
Maradona, il était là, non, du coin.
De la main, ce but.
Ah là là, il a pas
vu. Il l'a mis de la main.
Il l'a mis de la main.
Oh
ah, il n'a pas vu, monsieur Benasseur.
Thierry Roland, Jean-Michel Larquet au commentaire en 86. L'arbitre n'a pas vu et pourtant, le but a été validé. Pour en débattre, Bruno Derrien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à ma droite, ancien arbitre international de football, auteur du livre « À bas l'arbitre » aux éditions du Rocher. Et vous avez foulé très récemment un terrain de football puisque vous avez arbitré le match de gala équipe de France 98 contre une sélection de la FIFA. Tout s'est bien passé, pas eu besoin de vidéo pour arbitrer?
Non, j'ai pas eu besoin d'arbitrage vidéo. C'est vrai que l'esprit était bon. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à arbitrer ce match. 10 ans après ma retraite forcée. C'était une belle fête. Il y avait 30 000 personnes. Beaucoup d'émotions et de grands joueurs sur la pelouse. Et vraiment, ça restera pour moi et pour mes collègues un souvenir impérissable avec une petite touche féminine parce que les 10 dernières minutes de la première mi-temps ont été dirigées par un trio féminin. Comme quoi, les femmes sont peut-être l'avenir de l'homme dans l'arbitrage.
Et puis face à vous, à ma gauche, Naïm Moniol, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Eurosport, consultant à Radio Foot International sur RFI. Peut-être question aussi d'introduction. Est-ce que depuis le début de la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment en Russie, un arbitre a-t-il fait appel à la vidéo?
Non, parce que globalement, on a une Coupe du Monde propre. Alors il y a eu 3 matchs. Donc pour le moment, on n'en a pas. On espère qu'il y en aura le moins possible. On a fait un Euro 2016 sans vidéo. Il n'y a pas eu de polémique. Donc bon.
En tout cas, après des années donc de débats, d'opposition entre pro et anti-vidéo, et puis l'expérimentation dans le monde entier, eh bien le football va définitivement changer de visage pendant cette Coupe du Monde en Russie. Alors on va commencer par poser les arguments de chacun. Tout d'abord, Naïm Moniol, quel est pour vous l'intérêt de l'arbitrage par assistance vidéo?
L'intérêt d'abord, c'est arrêter avec l'hypocrisie dont nous profitons, nous journalistes, puisque l'arbitrage vidéo, nous, on l'utilise de manière indirecte. D'abord parce qu'on a 150 ralentis sur les actions, 150 caméras, et qu'on sait en direct ce qui se passe, et que quand l'arbitre n'est pas à la hauteur, on est les premiers à les tancer. Deuxièmement, parce que les commissions de discipline qui, 3, 4, 5 jours après un match, se regroupent et mettent 3 ou 4 matchs de suspension à un joueur, arbitrent à partir d'images de match. Donc c'est de l'arbitrage vidéo indirect. Donc autant l'utiliser de manière propre, directe et honnête. Deuxièmement, il ne faut pas mélanger l'utilisation et l'efficacité. Il y a aujourd'hui dans l'utilisation effectivement un chantier sur lequel travailler, progresser, optimiser, parce que les durées sont longues, c'est 1 minute, 2 minutes, 2 minutes et demie, puis il y a un manque de communication.
Je vous coupe, les études parlent de 70 secondes en moyenne, 1 minute 10 pour prendre une décision.
Parfois c'est 1 minute, parfois c'est 2, ça dépend, et puis il y a un manque de communication vis-à-vis des spectateurs dans le stade qui n'ont pas eux accès aux images, donc évidemment c'est un chantier à travailler. Mais sur l'efficacité, sur le rôle de la vidéo, elle est utile. Les cas le prouvent. On l'a eu en équipe de France avec le France-Espagne. On l'a vu plusieurs fois en Serie A cette année. Donc on a besoin de ça. Et puis, troisièmement, sur l'évolution du football, on est à une ère aujourd'hui du quantitatif. On a plus de matchs, plus de compétitions, plus d'enjeux, plus de responsabilités. Je trouve anormal que l'arbitre, qui est un acteur majeur aujourd'hui du match, n'ait pas un outil supplémentaire pour pouvoir être à la hauteur de ces événements.
Bruno Derrien, pour vous, les choses sont plus nuancées.
Oui, alors, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi, j'ai écrit un bouquin aussi, SOS Arbitre, SOS Vidéo, en 2010, juste avant la Coupe du Monde, en Afrique du Sud. Bon, il faut avoir été arbitre pour savoir que des fois, c'est compliqué, que c'est difficile, et qu'on nous pardonne rien. Et des fois, j'aurais bien aimé avoir l'image pour venir m'aider à prendre la bonne décision, et notamment sur la ligne de but. Moi, j'étais au cœur d'un match, une grosse polémique en 99 entre Lens et Marseille, une preuve de tir au but. Le ballon avait franchi la ligne et ni moi ni mon assistant n'avaient vu le ballon franchir la ligne. On avait éliminé cette année-là Marseille de la Coupe de la Ligue. Alors oui, sur le contrôle de la ligne de but, la goal line technology, bon, malheureusement, elle fonctionne plus en France. Je pense qu'ils vont changer de fournisseur l'année prochaine. Vous parliez tout à l'heure du temps. Temps d'attente avant de prendre la décision. Je me souviens qu'en Allemagne, il n'y a pas très longtemps, ça a mis plusieurs minutes parce que il y a eu une faute en première mi-temps, en fin de première mi-temps. L'arbitre a sifflé à la mi-temps, tout le monde est rentré au vestiaire et à un moment donné, l'arbitre a rappelé tout le monde sur le terrain pour faire venir tirer le penalty parce qu'il y avait faute. Bon, voilà.
Ça c'est des situations cocasses aussi, Bruno, qui sont plus dues à une drôle de personnalité.
Autant j'étais assez favorable et depuis ce France-Espagne. Ou là, c'était pour la première fois où on utilisait la vidéo l'an passé. J'ai eu comme un sentiment de malaise. Je crois qu'il a été partagé par beaucoup d'acteurs, de joueurs. Ben, je trouve que ça casse l'émotion dans un stade. Ça casse la spontanéité. Ce match-là, Griezmann marque un but, un beau but. Il embrasse ses joueurs, ses collègues, il se congratule. Enfin, il est salué par le public, il y a de la joie. Et puis, 1:30 ou 2 minutes après, ben, boum, son but est refusé. Et à contrario, les Espagnols marquent un but, il est refusé tout de suite. Et donc là, il n'y a aucune manifestation de joie. Et 1 minute après, ce but, il est validé. Donc les gens n'ont rien compris. Donc le foot, c'est les émotions. C'est ça.
Le foot génère c'est l'émotion. Bruno, moi, je veux bien cette histoire d'émotion. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, si tu prends le cas de ce France-Espagne, le but de Griezmann qui est annulé 2 minutes après qu'il l'ait marqué, il est annulé justement.
Mais je conteste pas ça.
Il est annulé justement. Donc à un moment donné, cette histoire de oui, mais il faut penser à l'émotion du spectateur. Donc on est en train de nous dire qu'aujourd'hui, c'est pas grave si on fait de l'injustice, pourvu que les spectateurs aient de l'émotion. Mais il y a pas de place pour l'approximation dans le haut niveau. Moi, quand on me dit on sacrifie l'émotion des spectateurs au détriment du jeu, des machins, mais très bien. Mais vous savez ce que ça génère quand on élimine une équipe ou quand on retire le but d'un joueur d'une grande compétition, ça brise des compétitions, ça brise des carrières. Et on est en train de me dire qu'aujourd'hui. Ah bah oui, mais l'injustice, c'est pas grave, on peut tolérer une petite injustice si ça fait plaisir aux gens dans les tribunes.
Mais excusez-moi. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit, ce sont même de grands joueurs, de grands dirigeants.
Mais les grands joueurs, je veux bien qu'ils le disent.
Que l'injustice peut nourrir la légende du sport. En 1966, moi, tu n'étais pas né, j'avais à peine 2 ans, il y a eu la finale de la Coupe du Monde, Angleterre-Allemagne. On ne saura jamais si le deuxième but anglais a franchi la ligne. Et ben, c'est aussi ça le sport. Et en 2010, donc, plusieurs années après, ça a été l'effet inverse avec le but de Lampard qui avait franchi la ligne. Et ce jour-là, Blatter était dans la tribune. Il a dit plus jamais ça. C'est de là qu'ils ont commencé à réfléchir à la vidéo.
Vous citiez Antoine Griezmann. Écoutez ce qu'il en pense justement de l'assistance vidéo.
Ça va être compliqué. Je vais essayer de tirer de loin, comme ça il y aura pas de problème. Mais non, après, ça peut être une aide pour les arbitres, donc tant mieux. Et je regarderai l'arbitre avant de célébrer pour voir ce qu'il fait.
Alors, Naïm Moniol, pouvez-vous consentir quand même qu'il y aurait ou qu'il y aura des effets pervers à cette assistance vidéo dans le football?
Évidemment, et le temps d'attente aujourd'hui sur une décision peut éventuellement reporter la joie. Et moi, je comprends que quand on est dans un stade et qu'on est amoureux de son équipe et qu'il y a un but et qu'on doit attendre 50 secondes, eh bien, c'est peut-être pas la même chose. Mais d'abord, je vais vous dire que c'est quelque chose qu'on va optimiser avec le temps. Vous savez, quand on a créé le moteur à explosion, la bagnole, elle a cramé. Aujourd'hui, on n'est pas en diligence. Donc, ça veut dire qu'on a quand même évolué puis qu'on a trouvé le truc. Donc, ça va s'optimiser une première fois. Et puis, à partir du moment où il y a intervention humaine, puisque l'homme qui va gérer la vidéo est dans un carrégi, un PC central, je sais pas.
Donc, en l'occurrence, là, à Moscou, ils sont 12.
Tous à Moscou dans un centre.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un match, globalement, le mec qui suit la vidéo est dans un carrégi, il est à l'écart du terrain. S'il y a intervention humaine, il y a forcément potentiellement une défaillance. L'homme n'est pas une machine.
Ouais. Et chose importante, in fine, c'est bien l'arbitre de champ qui prendra la dernière décision.
Oui, tout à fait. Oui. Mais il y a des images qui n'apporteront aucune vérité. Je vois la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco. Le but refusé à Falcao pour hors-jeu. Il y a des images qui montrent qu'il est derrière le ballon. Et il a été refusé ce but. Donc je suis désolé. Toutes les images, quand elles seront claires, la main de Thierry Henry, la main de Maradona, le but de Lampard, il n'y a pas de problème, les bonnes décisions seront prises, les injustices seront supprimées. On est tous d'accord. Mais ce cas-là, par exemple, et d'autres cas, en fin de compte, on va déplacer le problème. Ça restera au final l'interprétation d'un homme face à une image dans un van ou dans un centre. C'est
d'accord.
Tout.
D'abord, moi, je pense qu'on ne réglera pas 100% des cas. Je suis entièrement d'accord pour dire que, notamment sur les cas de hors-jeu qui font partie des 4 cas sur lesquels on fait appel à la vidéo, il est possible qu'il y ait plusieurs interprétations. Je veux bien. On ne va pas régler 100% des cas. Peut-être qu'on va en régler que 60 ou 70. Pourquoi pas? mais c'est 60 ou 70% des cas qu'on règle pas aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire polémique sur polémique, à tancer les arbitres, parce qu'il faut voir ce qu'ils prennent dans les matchs de Ligue des Champions sur Twitter par les journalistes? Tel arbitre il est nul, oui mais telle équipe elle est protégée parce qu'il y a tel entraîneur sur le banc ou tel joueur dedans, il faut faire... Alors les arbitres sont mauvais, les équipes sont protégées, mais on ne veut absolument rien faire pour endiguer ça, mais la vidéo peut proposer ça. On m'a dit, oui, il faut mettre des moyens humains. Il y a eu des moyens humains. Il y a les arbitres de surface. Aujourd'hui, ils servent à quoi, les arbitres de surface? On peut faire un débat là-dessus, ils servent à rien, les mecs.
Oui, mais c'était...
Ils servent à rien,
mais
les mecs.
Je suis d'accord. C'est dommage, c'était une très bonne idée de Michel Platini, parce que la surface de réparation, c'est la zone de vérité. C'est là où surviennent toutes les polémiques. C'est la partie de terrain la plus difficile à arbitrer. Mmh. Est-ce qu'il y a pénalty? Est-ce qu'il y a but? Et c'est dommage que ces arbitres-là ne prennent pas davantage leur responsabilité, parce que je pense que c'était une bonne idée.
Et vous, d'après vos dires, peut-être vos amis, Bruno Dernier, est-ce que ça met une pression supplémentaire aux arbitres ou au contraire ça les aide là aujourd'hui?
Ah non, je pense que ça les aide, c'est leur apport de la sérénité. Je crois qu'en Italie, d'ailleurs, le bilan qui a été fait, il y a moins de contestations des arbitres.
En
parce
Italie,
qu'ils savent qu'il y a l'image qui est là, qui viendra sanctionner tout mauvais comportement. Donc, probablement, auprès des arbitres, ça ramène de la sérénité. Mais ça peut aussi y avoir une forme de pression des joueurs sur le terrain pour que l'arbitre fasse appel à la vidéo. On le voit souvent quand il y a des contacts dans la surface de réparation, on voit les joueurs qui vont vers l'arbitre demander la vidéo.
Et c'est là où on peut émettre une critique autour de la vidéo, c'est que on a un moment donné, en tout cas moi je parle du cas français, ou même du cas italien, donner la vidéo aux arbitres, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu un vrai protocole de formation avant. J'ai un peu l'impression qu'on les a mis sur le fait accompli, vous avez la vidéo, voilà, tu veux savoir, tu appuies sur un bouton, tu parles au mec, machin. Peut-être que là, dans la manière d'utiliser la vidéo, de l'agencer dans une action, peut-être qu'il y a un travail à faire sur la formation, sur le protocole, mais sur le rôle en lui-même de la caméra, de la vidéo. Vous parliez de l'Italie, il y a eu 60 interventions de la vidéo cette année en Serie A, il y a eu 49 cas où la vidéo a déjugé la décision de l'arbitre central. À bon escient, 49 sur 60. Alors évidemment, il y en a 11 où ça va pas marcher. On va nous dire, ah bah oui, c'est pas 100% des cas. Mais évidemment que c'est pas 100% des cas. Mais quand vous réglez 49 cas sur 60, on peut quand même pas dire que c'est un fiasco.
Bruno Dernier.
Oui, il faut rappeler quand même que pour la Coupe du Monde, les arbitres vidéo sont ceux qui arbitrent avec la vidéo en Allemagne, en Italie régulièrement, qui ont été sélectionnés, donc qui maîtrisent l'outil. Je prends aussi, un autre cas, la finale de la Coupe de France, il y a eu un but qui a été refusé au PSG, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui.
Et quand on visionne l'image, l'arbitre refuse le but parce qu'il y a un contrôle au préalable de la main de l'attaquant, je crois que c'est Mbappé. Mais sur la même image, on voit qu'il est victime d'une faute. Alors maintenant, si on n'arrive pas à lire les images, c'est aussi un problème.
Mais là, après, ça relève de la compétence de l'arbitre, Bruno. Moi, je veux bien. Là, la caméra, pour le coup, n'est pas responsable.
J'avais cru comprendre que la vidéo allait résoudre tous les problèmes. La preuve que
non. Elle ne résout pas tous les problèmes.
Deux cas concrets, j'ai donné Falcao et Mbappé en finale.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange.
Pour ou contre l'arbitrage vidéo dans le football, avec en studio Bruno Dernier, ancien arbitre international, et puis Naïm Moniol, journaliste. Alors, pour rappel, pour explication, hein, cet usage est strictement encadré dans 4 cas. Lorsqu'un but est inscrit, en cas de pénalty, pour les cartons ou encore pour confirmer l'identité d'un joueur fautif. Est-ce qu'on peut essayer de se projeter un petit peu dans le temps et pensez-vous que cette assistance vidéo pourrait être élargie?
Elle devrait l'être.
À d'autres actions?
Je prends encore un exemple concret, la demi-finale de la Coupe d'Europa League, match retour entre Salzbourg et Marseille. Marseille se qualifie sur un corner, marque un but sur un corner inexistant.
Par exemple.
Eh bien, là en l'occurrence, la vidéo ne pouvait pas être utilisée. Et il y a une profonde injustice.
Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas encore à un stade d'expérimentation? Et finalement, la FIFA, est-ce qu'elle a bien
ficelé
le projet?
Oui, mais à mon avis, alors, si on met la vidéo pour les corners, on va les mettre pour les rentrées de touche, pour les coups francs.
Oui, évidemment.
On va jouer 5 heures.
Bah c'est pour ça que cette vidéo, elle ne doit pas arbitrer à la place de l'arbitre, elle doit être un outil à la disposition de l'arbitre.
C'est bien pour ça qu'on dit assistance.
Voilà, exactement, et que sur les corners ou sur les coups francs ou sur les rentrées de touche ou sur est-ce qu'il a fait ceci, cela, je crois pas que ce soit. Après, il faut aussi que l'arbitre ait une compétence, prenne ses responsabilités et utilise la vidéo uniquement s'il en a besoin. Et moi, vous parlez, est-ce qu'on pourrait l'élargir à d'autres cas? Moi, je pense même qu'il faudrait la retirer, notamment sur le cas du hors-jeu. Moi, je crois pas que le hors-jeu, ce soit le meilleur moyen de mettre en valeur la vidéo. Et même sur les pénaltys, tout contact au ralenti donnera l'impression d'une faute. Parce que voilà, il y a un contact, mais le contact, c'est autorisé au foot, c'est pas du basket. Donc voilà, ça fait partie des cas de figure où peut-être la vidéo n'est pas spécialement utile. En revanche, sur les franchissements de ligne, là, c'est évidemment, on ne peut pas faire autrement.
Je suis entièrement d'accord, je partage ton avis. Sur le hors-jeu, je pense que la vidéo, moi, si j'étais arbitre assistant aujourd'hui, si j'ai un doute, je lève plus mon drapeau. L'image viendra à mon secours. Donc, ça risque de totalement déresponsabiliser les arbitres assistants. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le doute, il ne faut plus qu'il lève. Il faut que l'action aille jusqu'à son terme. Et après, on verra s'il y a un but, est-ce qu'il est valable ou pas. S'il n'est pas valable, on le refusera. S'il est valable, on le validera. Moi, aujourd'hui, assistant, je lèverai pratiquement plus mon drapeau sur les attaques. Je sais que je serai sauvé par l'image. Parce que faut rappeler quand même que juger le hors-jeu, c'est extrêmement compliqué.
Ben, je sais bien.
Il faut avoir un strabisme divergent. Il faut avoir un œil à la fois sur le ballon et un œil sur l'avant-dernier défenseur. Comment vous voulez voir ? Médicalement, c'est prouvé que c'est injugeable.
Bon. Alors, pour terminer ce débat, des questions peut-être plus polémiques. Présenté pour lutter contre une injustice, quand on voit l'argent généré par le football aujourd'hui, n'est-ce pas une sorte de cheval de Troie où on nous présente comme ça une injustice pour peut-être truquer des matchs ?
Alors, moi, je crois pas. Oui, certains disent, oui, il y aura, parce qu'il y a l'arbitrage vidéo, mais non, il y aura plus de corruption dans l'arbitrage. Au moins, les choses seront claires. Bon, en tout cas, moi, j'ai arbitré pendant 27 ans, dans 17 ans en pro. J'ai jamais été approché par quiconque. Voilà, moi, c'est un argument qui, pour moi, ne tient pas en France. Voilà, après, bon.
En France, mais dans le monde ?
Bon, ça. Corruption généralisée, j'y crois pas. Enfin, bon, en tout cas, il faut qu'on m'apporte des preuves. Jusqu'à présent, moi, j'en en ai pas.
Et voilà. Naïm Moniol, juste sur ce point de vue-là.
Ça me paraît gros aussi, moi. Après, je dis pas que c'est pas possible, hein. Mais là, comme ça, expliqué comme ça, ça me paraît un peu gros qu'on utilise la vidéo pour de la corruption de masse.
Parce que finalement, le temps de latence, quand vous étiez seul à prendre la décision, il était très court. Maintenant qu'il sera plus long.
Alors, nous, quand on prend notre décision dans le quart de seconde, le temps de réflexion est très court. On ne met pas une minute ou deux minutes à s'y faire pénalty. C'est tout de suite ou jamais.
Je suis d'accord.
Et puis enfin, ce temps justement d'attente, on peut aussi se poser la question de ce qu'il, à quoi va-t-il servir ? Est-ce que petit à petit, si les temps sont de plus en plus longs, on ne pourrait pas introduire la publicité au sein
Qui va décider ça ?
Je vous pose la question.
Il faudrait que les Américains s'emparent de la FIFA, ce n'est pas encore fait.
Ah oui, mais ça, c'est une bonne question. Pourquoi pas le partenaire des arbitres qui ferait de la pub à ce moment-là? Les arbitres font la porte aussi un logo aujourd'hui en France et dans tous les pays européens. Je sais pas, j'imagine qu'ils ont dû réfléchir, ces sponsors aussi, au temps de long terme. Sur quoi on communique?
Il y a quand même une différence, c'est que quand il y a un temps mort à cause de la vidéo, il y a des informations. C'est que, d'abord, on ne sait pas combien de temps ça dure. Ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer une minute. Puis il y a des informations. On sait on a besoin de rester en direct. On peut pas partir en pub, machin. À ce moment-là, on le fait. En période de grosse chaleur, il y a des petites pauses dans les mi-temps pour boire un coup. À ce moment-là, on met une pub. On met une pub aussi quand il y a un blessé, le temps que le mec il est évacué sur la civière.
Bon, là, je pense en tout cas, moi, je peux vous dire que je connais bien le partenaire des arbitres en France. J'y travaille. Ils sont ravis quand il y a la vidéo parce qu'il y a un gros plan sur l'arbitre qui dure 50 secondes, une minute. Donc la visibilité de la marque, on la voit. Ouais. Peut-être que le prix du maillot de l'arbitre va vous coûter plus cher, mais non.
Ah, va savoir.
On termine juste sur le championnat de France pour revenir à ce qui va se passer dès la saison prochaine. Donc ce sera là en ce moment pendant la Coupe du Monde et pour la première fois. Vous faites une différence entre ce qui peut se passer sur les équipes nationales et un championnat ou pas avec l'assistance?
Non, ce sera le même système qui sera appliqué. Je pense que la direction technique de l'arbitrage fera le bilan de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et en tirera les conséquences et les conclusions quant à la préparation de ces arbitres vidéo.
Sur les championnats, il va falloir encadrer vraiment la communication de certains dirigeants de clubs qui ont pour manie de tancer l'arbitrage et de lui mettre une pression accrue, notamment le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, avant les gros matchs. Donc là aussi, essayer de voir que la vidéo ne devienne pas un nouvel instrument de polémique par les dirigeants des clubs.
Un dernier mot.
Eh bien, écoutez, je demande à voir. En tout cas, tous ceux qui pensent que la vidéo va régler tous les problèmes et éviter toutes les polémiques dans l'arbitrage, je ne suis pas sûr.
Eh bien, ce sera à vivre jusqu'au 15 juillet, en tout cas pour cette première Coupe du Monde avec l'assistance vidéo pour les arbitres. C'est la fin de ce débat. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez le réécouter quand vous voulez sur le www.rfi.fr.